Alléluia. Vraiment, le Seigneur, il me rappelait quelque chose à propos de notre Église. Amen. Et puis, ça se combinait avec la pensée qu'il m'avait donnée ce matin, qu'il voulait que je passe parmi vous. Amen. Voyez-vous, il y en a beaucoup qui connaissent le témoignage de l'Église ici, mais ça va avec ce que j'ai à dire. Et puis, voyez-vous, l'Église sur le roc ici, quand on a commencé l'Église, tout le monde sait que c'était dans la petite maison en avant. Et puis, où on descend les marches, on était dehors dans ce temps-là. Et puis, c'était aménagé, il n'y avait pas des bureaux comme ça en avant, puis tout ça, puis on se réunissait là. Et puis, c'était des agents d'immeubles qui nous avaient trouvé cette vieille maison abandonnée puis qui nous l'avaient aménagée pour qu'on puisse avoir une église. Parce qu'il y avait une chose qui était très importante, c'est qu'on essayait, nous autres, de partir une église à Sherbrooke. Mais toutes les salles qu'on pouvait louer, on ne pouvait pas parce qu'on n'a pas le droit d'avoir une église zonée commerciale. OK? Alors, on n'avait pas le droit. Fait qu'aimer, les agents d'immeubles, ils ont dit, à Rock Forest, vous avez le droit, zonée commerciale, d'avoir une église. Vous allez être sur un boulevard, tout va être correct. Fait qu'on avait loué pendant 2 ans. Et puis, je peux vous dire, dans ces années-là, il n'y avait pas de salaire, puis il n'y avait rien, puis une chance que mon mari avait sa petite pension militaire, puis tout ça. Puis de peine et de misère, au bout de 2 ans, on avait 2 ans pour acheter avec une option d'achat. Sinon, ils plaçaient une pancarte au bord de la rue et puis n'importe quel vendeur de char, parce que c'est juste de ça qu'on a sur le boulevard, pouvait maintenant voir un beau terrain clair, puis surtout qu'ils se placent toujours un à côté de l'autre pour se faire compétition. Alors, on avait 2 ans pour acheter, sinon ils mettaient une pancarte à vendre sur le bord du chemin. Alors, de peine et de misère, on n'ira pas au travers de tout ce témoignage-là, mais on a dit, on veut acheter. Alors, les propriétaires, pensant, ils nous l'ont dit après, ils ont dit, ils vont acheter, ils ne sont pas capables de payer, puis on va le ressaisir, puis on va le vendre encore plus cher. Mais pensant qu'on ne réussira pas, ils ont dit, on va vous endosser, on va même vous prêter de l'argent, puis tout ça. Fait qu'on a acheté. Et puis, en achetant, la chose qu'on s'est aperçu, c'est qu'on avait maintenant un droit acquis pour une église sur un boulevard à Rock Forest. Et quelques mois plus tard, peut-être à peu près la période d'un an, Rock Forest était fusionné avec Sherbrooke. Et puis, la loi de Sherbrooke, vu que Rock Forest a fusionné, c'était que tu n'avais pas le droit d'avoir une église zonée commerciale. Mais vu que nous autres, on était propriétaires maintenant, c'est pour ça que Dieu nous poussait tant à acheter puis se dépêcher, il n'y avait pas le droit de nous enlever notre droit acquis. Amen. Et puis, ils ont dit, bien, maintenant, vous avez un droit acquis, alors vous pourrez avoir une église à Rock Forest, sur un boulevard, zone commerciale, toujours, amen. Et lorsqu'on a construit l'église, ils nous ont dit, il y a juste une chose, il faut que vous gardiez la partie d'en avant, parce que si vous l'achetez à terre, puis qu'il n'y a plus rien sur le terrain, vous perdez votre droit acquis. Parce que tant qu'il y a une bâtisse qui s'appelle l'église, vous avez votre droit acquis. Et c'est la raison pourquoi on a aménagé l'entrée pour qu'elle devienne l'entrée, l'église pour qu'elle devienne l'entrée, puis on l'a connectée, puis on a travaillé avec des architectes qui ont venu à bout de raboudiner tout ça pour que ça ait l'air d'une église. Amen. Gloire à Dieu. Mais voyez-vous, un droit acquis, c'est très important. On va aller dans Acte 22. Tout ça pour vous démontrer, Acte 22, un jour l'apôtre Paul, il s'était fait encore une fois arrêter et puis il était pour être battu encore une fois et tout le tralala. Et on va commencer à lire au verset 22, ça dit, « Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix disant, ôte de la terre un pareil homme, parlant de l'apôtre Paul, il n'est pas digne de vivre. Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Autrement dit, les foules s'étaient élevées contre l'apôtre Paul, puis ils disaient, enlève un homme comme lui de la terre, ça devrait disparaître, puis il faisait des scènes atroces, il envoyait de la poussière dans les airs, il y avait vraiment une émeute. Il ne garochait pas des roches d'un vitre, parce qu'il n'y avait pas de vitre dans ce temps-là. Fait qu'il lançait de la poussière en l'air, puis toutes ces choses-là. Alors, le tribun, pour pas que Paul se fasse sauter dessus, a décidé de le faire entrer dans la forteresse, puis de lui donner la question par le fouet. Autrement dit, de dire, « Coudon, c'est quoi ton problème? Puis tu vas parler, on va te fouetter jusqu'à temps que tu parles. » Comme on l'attachait pour le frapper, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné? » Parce qu'il y avait une chose, c'est les Romains qui fessaient les autres, mais le Romain ne recevait jamais le fouet. Fait que, wow! À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est Romain. » Et le tribun étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu Romain? » « Oui, répondit-il. » Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Donc là, vous allez dire, « m'a tout connecté ça ensemble bientôt. » Amen. Voyez-vous, le tribun, pour devenir Romain, c'est avec beaucoup d'argent qu'il a réussi à acquérir le droit, qu'il s'était acquis un droit de bien paraître, puis d'être romain, puis de ne pas être frappé. L'apôtre Paul, il dit, « Moi, je l'ai de ma naissance, ce droit-là. » Bon, amen. Alors, je voulais juste qu'on comprenne qu'est-ce que c'est un peu un droit acquis. Un droit acquis, c'est tu peux l'avoir, comme on vient de voir, que tu payes cher pour l'avoir, ou tu peux l'avoir de ta naissance. Comme nous, ici, à l'Église sur le roc, le droit acquis, on l'a eu, c'est sûr, par la grâce de Dieu. Amen. Parce que Dieu a bien voulu nous mettre un petit peu d'intelligence dans les cerveaux pour qu'on agisse sans savoir ce qu'on faisait, parce que c'est, quand on laisse agir Dieu au travers de nous, il en sait toujours plus que nous. Mais on sait que ce droit acquis-là, on l'a eu par la grâce de Dieu et que maintenant, fallait le préserver, notre droit acquis. Comprenez-vous? Fallait le préserver, parce que si on jetait la maison à terre, eh bien, on perdait notre droit acquis. Amen. Alors, moi, ce que je veux enseigner ce matin, c'est, savez-vous que la guérison, c'est un droit acquis qui nous appartient. Et il a été payé cher. Amen. Il a été payé par l'obéissance de Jésus, premièrement. Vous savez très bien que Jésus, tout le temps qu'il était sur la terre, il a été tenté en toutes choses, mais sans jamais faillir en rien. Et puis même quand c'est venu le temps de passer à la croix, puis de payer, comme j'ai dit dans d'autres enseignements, quand Jésus y est allé à la croix pour souffrir, il ne faisait pas ça pour lui. Parce que lui-même aurait pu dire, il l'a dit lui-même, il dit, les autres ont dit, ne réponds-tu pas quand le Hérode te parle, puis Ponce Pilate, tu ne réponds pas. Et il dit, tu sais pas que je pourrais juste invoquer mon Père, puis il enverrait des 12 légions d'anges, puis je partirais comme ça. Jésus n'était pas obligé pour lui de passer à la croix. Mais il nous a acquis un droit qu'il a payé. Amen. Puis un droit acquis, tu ne peux plus l'enlever. Gloire à Dieu. C'est comme ici, on a un droit acquis. Ils ont beau bâtir des Zellers, des Kmart, n'importe quoi autour de nous autres, toutes les zones commerciales, on a un droit acquis. Parce qu'il y avait une loi dans ce temps-là que Rock Forest, ça ne lui faisait rien qu'il y ait une église commerciale. Et Dieu savait que quand ça se fusionnerait avec Sherbrooke, on aurait un droit acquis. Combien de vous savez que Dieu sait toutes choses? Amen. Puis notre Seigneur Jésus-Christ, il a payé de toute son obéissance, de toutes les souffrances, de son sang versé, des meurtrissures qu'il avait dans son corps, les coups de fouet, la couronne d'épines, les clous, la parole, j'ai lu des livres qui parlent de la crucifixion qu'il faisait dans ce temps-là. Ils disent que tout, ça tenait juste par des ligaments. Les os se décrochaient un de l'autre. T'étais pendu au bois. La souffrance qu'il a eue, il a payé le prix du droit acquis. Merci Seigneur, amen. On a un droit acquis. Quand même qu'il y a quelqu'un qui arriverait ici, il commencerait à vouloir dire, vous avez pas le droit d'être sur un boulevard. Non, on a un droit acquis. C'est ça. Le Romain, le tribun ici dans l'histoire, il dit, moi j'ai un droit acquis. J'ai payé cher pour, mais j'ai un droit acquis. L'apôtre Paul, il dit, moi je l'ai de ma naissance. Savez-vous que nous, quand nous sommes nés de nouveau, c'est là qu'on a aussi eu le droit acquis. Voyez-vous, Jésus a payé le prix comme le tribun a payé le prix pour devenir romain. Jésus a payé le prix pour nous pour qu'on ait un droit acquis à tout ce qu'il faisait. Puis, l'apôtre Paul, lui, l'avait de sa naissance. Lorsque nous sommes nés de nouveau, on a embarqué dans le droit acquis. Fait qu'on l'a parce que Jésus a payé le prix, puis on l'a de notre naissance, nous autres aussi, de la nouvelle naissance. Amen. Gloire à Dieu. On va aller à Jean 3. Le monde va dire, c'est quoi ça, la nouvelle naissance? On va aller voir ici. Jean 3, puis je vais commencer à lire au verset 1. Ça dit, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles comme tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jésus, il n'a pas commencé à dire, « Oh, wow, oui, c'est vrai, je viens de Dieu. » Il est plus intéressé à amener de la lumière, puis d'amener cet homme-là à naître de nouveau, puis de comprendre quelque chose, que de répondre aux flatteries qu'il est en train de dire. Amen. Alors, il dit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, l'eau de la parole et l'esprit de Dieu, amen, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Amen. Alors, voyez-vous, quand nous devenons chrétiens, puis quand nous acceptons le Seigneur Jésus comme sauveur de notre vie, la parole de Dieu nous démontre qu'on vient de naître de nouveau. C'est comme avant, on était né de chair, avec le péché dans nos vies, et puis on était dans la noirceur, jusqu'à ce qu'on vienne à connaître le Seigneur Jésus comme le sauveur de notre vie. Puis aussitôt qu'on connaît la parole et par l'Esprit de Dieu, on est de nouveau, on est une nouvelle créature, comme si on n'aurait jamais existé auparavant. Comme si tout, c'est pour ça que tu vas prendre des fois le pire des pécheurs, un voleur, et puis il se repent, et puis il accepte le Seigneur Jésus, puis il est un homme transformé. Pourquoi? Parce qu'il est né de nouveau. Et tu vas prendre pareil, mon mari, je disais toujours, moi, je n'ai pas un gros témoignage là, d'avoir pris de la drogue, d'avoir volé le gouvernement pendant des années, d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Et il dit, je n'ai pas vraiment un gros témoignage du passé pour le présent. J'ai dit, tu as le plus grand témoignage parce que tu étais déjà un homme bien et bon, fidèle, toutes les choses. Mais... et puis, tu t'es humilié pour dire, j'ai quand même besoin de mon sauveur. Amen. Puis ça prend plus. Tu sais, quand tu es déjà méchant au départ, tu as besoin d'aide. Amen. Mais quand tu es déjà considéré comme une bonne personne, amen, ça prend plus d'humilité de cœur. Je dis, ton témoignage est grand parce que tu t'es humilié pour dire, j'ai quand même besoin d'un sauveur. J'ai besoin de naître de nouveau. Amen. On va aller à 2 Corinthiens 5, 17. Vous allez peut-être dire, c'est drôle comment Dieu il t'amène des enseignements, c'est parce que je réponds à des questions aussi en même temps. Amen. Je le sais. Je le sais quand je le prépare, qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça en quelque part. Dans 2 Corinthiens 5, et puis le verset 17, ça dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Amen. Autrement dit, quand tu me fais le Seigneur Jésus comme sauveur de ta vie, tu es une nouvelle création. Amen. Après ça, ça continue. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Merci Seigneur, on va revenir au droit acquis. Le droit acquis que nous avons de participer à tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli, il l'a payé cher. Amen. Comme le tribun avait payé cher pour devenir Romain. Puis le droit acquis que nous avons maintenant de participer à tout ce que Jésus a fait à la croix vient de notre nouvelle naissance seulement. Comme l'apôtre Paul disait, moi je l'ai de ma naissance, ce droit acquis-là. Amen. Merci Seigneur que le droit acquis que nous avons pour obtenir les choses que Jésus a faites à la croix, pour nous amener dans cette nouvelle naissance, merci Seigneur qu'on peut y participer par la grâce de Dieu. Amen. Merci Seigneur que l'Église sur le roc a un droit acquis et c'est par la grâce de Dieu que ça s'est fait. C'est pas nous autres qui étions assez intelligents pour savoir qu'il faut laisser de pécher d'acheter parce qu'un jour ça sera fusionné avec Sherbrooke. Dieu le savait. Si vous saviez comment Dieu a travaillé des choses, des fois c'est le fun de pas être trop intelligent. Amen. On est obligé de se fier à l'intelligence de Dieu. Puis, je sais qu'il y en a plusieurs qui le savent aussi, mais je vais le dire pareil, juste pour vous montrer comment Dieu, quand on lui fait confiance, il sait des choses 100 fois plus que nous autres. En ce qui concerne nos enfants, nos familles, toute notre vie. Voyez-vous, on était là, on avait acheté. Bon, là, les années s'écoulent un peu. Tout d'un coup, on reçoit un téléphone d'un monsieur en arrière. Sur la rue Godin, c'est ça? Et puis il dit, je voudrais vous rencontrer parce que j'aurais quelque chose à vous demander. Parce qu'ici, l'église sur le roc, elle a un terrain en arrière, mais à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur où est la rue, il y a des terrains qui sont déjà appartenant à des gens. Mais nous autres, on a 19 acres de terre, mais c'est à l'intérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que le monsieur nous appelle puis il dit, moi, mon terrain, il est en arrière du vote. Puis il dit, il est mince, puis long, je fais la rue. Mais il dit, moi, je voudrais avoir plus profond, puis je vous donnerai une entrée de passage pour votre terrain en arrière. Ah, ben, on a dit ça, a du bon sens. Hein? Fait que, il dit, ça ne vous coûtera rien, on va juste faire un échange. J'en prends un petit peu plus profond, puis vous, vous allez avoir toute votre entrée pour aller sur votre terrain. Ah, OK. On passe chez le notaire, puis on fait tout ça. Quand est venu le temps de construire l'église, la banque la ville nous avertit. Ils ont dit, là, vous avez 19 acres de terre, mais il y a 5 acres qui est commercial. Puis les 14 acres en arrière sont résidentiels. Puis on dit, vous savez que vous ne pouvez pas passer, vous faire un chemin par le commercial pour aller dans votre résidentiel. On a dit, ah, ben on l'a notre chemin. Ils ont dit, ah oui, ben oui, mon mari a porté les papiers. Il dit, ben oui, ça a été notarié. Il y a quelqu'un qui nous a donné l'entrée. Pensez-vous qu'on aurait été capable de penser à ça? On n'est pas assez intelligent pour connaître les choses qui ne nous appartiennent pas, puis les choses qu'on peut, puis qu'on ne peut pas. On ne savait même pas qu'il y avait 14 autres qui étaient résidentiels. Maintenant, on le sait, puis on a une entrée en arrière. Fait quand ça va venir qu'à se développer, on verra ce qu'on va faire. Amen! Mais ça appartient à l'Église sur le roc, pas à Réal et Chantal. Amen! Comprenez ceci, tout ce qu'on bâtit ici, des fois je dis, on travaille autant qu'un cultivateur. À l'exception que le cultivateur, lui, commence avec sa terre. Ça, il achète son tracteur, puis il achète sa moissonneuse, puis il achète 4 vaches de plus, des petits cochons, puis il se fait un poulailler. Puis il bâtit toute sa vie. Et puis quand il arrive à 65, il vend ça, puis il vaut 2 millions. Tandis que des pasteurs, ils commencent avec une petite église, puis ils construisent plus grand, puis ils achètent ça, puis ils vont là. Ils arrivent à 65 ans, l'église vaut 2 millions. Mais pas nous autres. Parce que quand on part, c'est un autre qui le prend. On bâtit pour le Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas ça. Ils pensent que nous autres, on se met riche avec ça. Amen. Ah, gloire à Dieu. On ne rentre pas là-dessus, mais encore une fois, je pense que le Seigneur voulait que j'en parle. Mais voyez-vous un droit acquis. Un droit acquis. Mais comment Dieu d'avance est capable de prendre soin quand on est dans son plan de détails qu'on ne connaît même pas. D'avance, Dieu savait qu'on aurait besoin de guérison. D'avance, Dieu savait qu'on aurait besoin de la paix. D'avance, Dieu savait qu'on aurait besoin qu'il pourvoie à tous nos besoins. Dieu prend soin de nous. S'il est capable de prendre soin de des détails comme ça, combien plus? Et ça, c'est un droit acquis qu'on a. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a payé le prix et nous, en acceptant Jésus comme notre Sauveur, puis en le mettant dans notre vie maintenant comme notre Seigneur, on est de nouveau. Alors, à ce moment-là, on l'a de notre naissance. Amen. Gloire à Dieu. Et comme j'ai dit dans un enseignement dimanche, lorsqu'on a pris la communion, j'ai démontré, voyez-vous, on va aller à 2 Chroniques 20, parce que j'ai parlé de quelque chose, amen, qui a besoin d'une petite référence ici pour qu'on le voit de nos yeux. Amen. Ici, c'est Josaphat. Amen. Et puis, on va juste lire le verset 1-2. « Après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, et avec eux les Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. » OK. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est en En-Guinée. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Voyez-vous, il y a quelque chose de grandiose qui est après s'élever. Puis là, ils ont dit, il y a 3 armées qui sont en train de s'en venir contre toi et puis qui vont te faire la guerre. Josaphat, il dit, oh my, on va tous bien de faire un jeûne puis chercher qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse là-dedans. Alors, ils ont bien fait de faire leur jeûne parce que Dieu leur a parlé. Et au verset 15, ça dit, et Jachaziel dit, il y a eu une parole quand qu'eux autres ont prié puis ont jeûné. Il y a eu une parole, il dit, soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem et toi, roi Josaphat. Ainsi parle l'Éternel, ne craignez point puis ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Ils disent que les multitudes dans ce temps-là, ça pouvait aller jusqu'à entre 5 à 20 000 personnes. Puis là, c'est une multitude nombreuse. Amen. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Si tu mets Dieu dans ta vie, c'est plus toi qui te bats contre les choses. C'est Dieu. C'est Dieu qui est avec toi. La parole de Dieu dit, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Amen. Et il dit, ne vous effrayez point, n'ayez pas peur. C'est Dieu qui combattra pour vous. Amen. Alors, ils ont pris la parole du Seigneur au sérieux. Ils ont dit, OK, c'est bon. Alors, au verset 18, ça dit, Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils des Kéhatites et d'entre les fils des Coréites, des moyennes bébites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voyez-vous, quand le monde célèbre, là, c'est pas par en dedans, hein? C'est toujours d'une voix forte et haute. Amen. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et tout habitant de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Je veux qu'on comprenne quelque chose. Un, il faut se confier en l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de Bible d'écrit. Il n'y avait pas. Celui qui amenait la parole de Dieu, c'était le prophète. C'était juste des prophètes qu'il y avait dans l'Ancien Testament pour amener la parole de Dieu. Fait que c'est pour ça qu'il dit, confiez-vous en ces prophètes. Mais nous, dans le Nouveau Testament, on ne va pas chercher des prophètes partout, se confier en eux. On se confie dans la parole de Dieu. La raison qu'il disait « confiez-vous dans ces prophètes », c'est parce que les prophètes amenaient la parole de Dieu. Ce qu'il voulait dire, c'est « confiez-vous dans la parole de Dieu du prophète ». Alors nous, on se confie dans la parole de Dieu. On se confie en l'Éternel, puis sa parole est écrite, puis c'est en ça qu'on se confie. Amen. Gloire à Dieu. Alors il dit, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dura toujours. » Au moment où on commençait le chant et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et de ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Ce que je veux qu'on voit, c'est qu'ils ont réussi, ils ont toutes défaites. Je veux dire, Josaphat a gagné sur toute l'armée nombreuse qui s'élevait. Et on va lire à partir du verset 24. « Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on percevait le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. » Ils sont tous morts. Amen. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses, parce que le monde allait à la guerre dans ce temps-là avec leurs richesses. Bon. D'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Amen. Ils mirent 3 jours au pillage du butin. Et il était considérable. Alors, ça a pris 3 jours parmi les cadavres à tout ramasser. Puis même, ils n'ont même pas été capables de tout apporter parce que c'était considérable. Et dimanche, lorsqu'on a pris la communion, j'ai dit, c'est curieux que notre Seigneur Jésus-Christ est descendu 3 jours aux enfers. Puis lui ici, il a pris 3 jours à ramasser notre butin. Amen. Il a pris 3 jours à ramasser et à dire, « Toi, Satan, là, dorénavant, ceux-là qui vont croire, ils vont être guéris. Dorénavant, ceux-là qui vont me mettre en premier puis qui vont m'honorer, tu regarderas comment que je vais prendre soin d'eux autres. Je prends soin de mes enfants. Tu regarderas, parce que là, je suis en train de ramasser le butin qui eux appartenait, que toi, t'avais volé. » Voyez-vous, Satan, c'est un voleur. Il veut voler notre santé, il veut voler notre vie, il veut voler nos mariages, il veut voler nos enfants, il veut voler. Puis pourtant, Dieu nous promet une longue vie satisfaisante. C'est ce qu'il dit dans le psaume 91, le dernier verset. Il dit, « Je te rassasirai de longs jours. » Amen. Et quand on regarde les hommes qui honoraient Dieu de l'Ancien Testament, ça dit souvent, « Ils étaient rassasiés de longs jours. » Amen. La durée de nos jours, selon la parole de Dieu, est supposée d'être 120. 120 ans. Le monde va dire, c'est écrit dans les Proverbes 80. Ça, c'est pour les païens. 120, c'est pour les chrétiens. Amen. Gloire à Dieu. 120. Fait qu'on a encore un bout à aller. Amen. Alors, c'est quoi le butin qu'il a ramassé pour nous, que maintenant c'est un droit acquis? On va aller trois écritures, c'est 2 Corinthiens 8, 9. J'arrive, 2 Corinthiens 8, 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Puis croyez-moi, si vous ne me croyez pas, croyez au moins la parole de Dieu. Comme Jésus disait, si vous ne me croyez pas, croyez au moins en ses œuvres, croyez au moins la parole de Dieu. Tout le chapitre de Corinthiens 8 et 9 parle d'argent. Fait qu'il y en a qui essaient de nous montrer, oui, Jésus s'est fait pauvre spirituellement. Il ne s'est pas fait pauvre spirituellement. Il était très fort spirituellement. Puis il était capable de descendre en enfer pour aller chercher tout ce qui nous appartenait. Il n'est pas devenu pauvre spirituellement. Mais à la croix, la parole de Dieu nous dit qu'il était vêtu d'une robe qui était juste d'un bout. Vous savez comment qu'il passait ça tout le tour, par là, puis revenir. C'était une grande pièce de matériel. La plupart des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent prenaient un bout de matériel cousu avec un autre bout, cousu avec un autre bout. Tandis que notre Seigneur Jésus-Christ, elle était toute d'un bout, parce qu'il était habillé comme un roi. Amen. Jésus n'a pas marché en pauvreté sur la terre. J'ai un enseignement qui dit, Jésus était-il pauvre? Non! Il y avait un trésorier qui le suivait. Puis celui qui était en charge du trésor, c'était Judas, puis il en prenait. Puis pour qu'il en prenne, puis les autres s'en aperçoivent pas, c'est parce qu'il en avait gros. Quand tu es obligé de te promener avec un trésorier, c'est parce que tu as de l'argent. Amen. Jésus retournait à la maison. Il y avait une maison. Amen. Et puis même quand il est mort à la croix, les soldats, ils l'ont dépouillé de sa robe. Il s'est fait pauvre. Il s'est laissé faire, autrement dit, pour nous. Puis ils ont voulu s'arracher le matériel. Puis là, ils ont dit, déchirons-le pas parce qu'il va perdre de la valeur. Ils ont dit, faisons-le tirer au sort à la place. Puis il y en a un dans la gang qui l'a gagné. Amen. Mais voyez-vous, Jésus s'est fait pauvre. Quand il était à la croix, il était en train de nous acquérir le droit. Un droit. Un droit acquis de pouvoir être prospère à cause de lui, de pouvoir avoir nos besoins rencontrés à cause de lui. Tout ce qu'il a fait à la croix, c'est qu'il devenait ce qu'on était pour que nous autres, on ne soit plus. Alors, il s'est fait pauvre pour qu'on soit enrichi. Dans 1 Pierre 2, je vais commencer à lire au verset 22. La parole de Dieu dit, « Lui qui n'a point commis de péché, ça c'est Jésus, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. Injurié, il ne rendait pas d'injure. Maltraité, il ne faisait même pas de menace. » Tu sais, des fois, les gens, ils nous maltraitent, puis nous autres, on dit, « Laisse faire qu'il va y goûter tout à l'heure. » Lui était maltraité, puis il ne faisait pas de menace. Amen. Amen. Et il s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, afin que, mort au péché, on puisse vivre pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. C'est fait, c'est un droit acquis. C'est un droit acquis. Car nous étions des brebis errantes, mais maintenant, on est retourné vers le berger puis le gardien de nos âmes. Amen. Alors, il nous a guéris. Il nous a rendus justes. Il s'est fait pauvre pour qu'on soit enrichis. Et dans Ésaïe 53, qui parle de Ésaïe d'avance, des années d'avance, a prophétisé à propos de la venue de Jésus. Puis Ésaïe dit ceci, on va commencer à lire au verset 1, ça dit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » Jésus, là, c'était le bras de l'Éternel. C'est comme si l'Éternel étendait son bras des cieux en envoyant Jésus vers nous. Il y en a qui ne l'ont même pas reconnu. Amen. Comme un rejeton qui sort, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Le monde va dire, c'est drôle, il y en a qui ont vu Jésus, puis quand ils ont fait une peinture de Jésus, il est tellement beau. Oui, parce que maintenant, il y a un nouveau corps, il est ressuscité. Fait que imaginez comment on va être beau nous aussi un jour, gloire à Dieu. Amen. Mais quand il était sur la terre, là, il n'y avait pas comme une apparence différente, tellement beau que le monde pouvait dire, « Oh, il n'y a pas de doute, il est tellement beau. » Non, il n'y avait même pas une beauté pour attirer les regards. Il était ordinaire. Il a tout délaissé la gloire qu'il avait. Amen. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous avons fait de lui aucun cas. Ça, c'est tout le monde qui passait, là, puis regardait sur la croix, puis disait, « Hein, toi qui as sauvé les autres, sauve-toi toi-même, descends de là. » Le monde l'ont dédaigné. Amen. Mais cependant, là, il dit, voici ce qui est vraiment arrivé. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le monde disait, gay, il est puni. Il pensait, lui-là, là, qui était le Fils de Dieu, il nous disait, son Père. Hein? C'est comme ça que le monde parlait. Puis il disait, tiens, il est puni. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. On peut vivre aujourd'hui en paix. Combien de vous savez que quand on était jeune, la plupart de nous, on allait tout à confesse, on se pratiquait dans la classe, la maîtresse en avant, elle nous faisait penser à tous nos péchés, là, les ceux qu'on pouvait avoir faits. Puis elle disait de regarder combien on avait fait. Puis elle disait, je pense que j'ai menti trois fois. Je pense que j'ai volé un crayon une fois. Puis là, on disait ça, OK, une fois, trois fois. OK, il faut que je m'en rappelle quand je vais arriver en bas. Mais pourtant, quand on confessait nos péchés, combien de vous, sans exception, vous êtes sûrs, quand vous avez sorti de là, vous vous sentiez lavé? Moi, oui, en tout cas. Quand... Tu vas y goûter, mais qu'on arrive chez nous. Mais en tout cas, moi, quand je sortais de là, je me sentais toujours libérée. Je me sentais bien. C'était facile pour moi de croire que Dieu pardonnerait mes péchés. C'était facile. La seule chose qu'on n'a jamais appris, c'est que Dieu peut nous guérir aussi. C'est aussi facile. Amen. La parole de Dieu dit, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Vous savez, c'est quelque chose de savoir qu'on peut s'approcher de lui avec assurance, dire, « Seigneur, j'ai encore manqué le bateau, je te demande pardon. » Puis la paix, elle tombe sur nous parce que le châtiment, il est tombé sur lui. Voyez-vous, Jésus a pris 3 jours à ramasser notre butin. Amen. Il a dit, « J'ai subi le châtiment, dorénavant, ils vont être en paix. Je me suis laissé dépouiller puis tomber pauvre. » Dorénavant, ils vont être riches. J'ai souffert. Dorénavant, ils vont être guéris. Je reviens chercher ce qui leur appartient. Il a tout ramassé le butin pendant 3 jours de temps. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voyez-vous, Ésaïe, bien des années avant que ça arrive, savait d'avance que les meurtrissures de Jésus guériraient le monde. Il dit, voici les mêmes paroles qu'on a lues dans Pierre. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Et au verset 10, ça dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après l'avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ça le fait plaisir à Dieu de voir Jésus souffrir. Vous allez dire, ah oui? Oui! Parce qu'il dit, c'est mieux qu'un souffre, puis pas tout le monde. Ça faisait plaisir à Dieu parce que quand Dieu regardait les souffrances qui étaient toutes sur Jésus à la croix, Dieu savait que dorénavant, celle-là, elle arrêterait de souffrir parce qu'elle croit. Celui-là, il arrêterait de souffrir parce qu'il croit. Les personnes arrêteraient de souffrir en croyant que lui a porté les meurtrissures qui nous guérissaient. C'est pour ça que Dieu était content. Voyez-vous, souvent, nous autres, comme parents, on voit nos enfants souffrir et puis on est porté à dire, j'aimerais bien mieux que ce soit moi qui souffre que mes enfants. C'est exactement, cette bonne idée-là ne vient pas de notre tête. Il n'y a rien de bon qui vient de nous si ça ne vient pas de Dieu en premier. Amen. Fait que c'est pour ça que ça le fait plaisir à Dieu, parce que Dieu il a dit, dorénavant, il a porté toutes les souffrances, les maladies, les péchés, les infirmités, le châtiment, tout est là. Alors, je sais que cette personne-là va pouvoir être délivrée dorénavant. Dieu savait qu'il y aurait plein de guérisons qui s'en iraient à cause que lui porterait les choses. Il nous a acquis un droit. Amen. Et on la raison qu'on préserve notre droit ici, d'avoir une église, c'est tant que l'église est là. La manière que vous allez préserver votre droit, c'est en demeurant, vous autres aussi, dans la parole de Dieu. Vous gardez vos droits. En demeurant qui vous êtes en Christ, une nouvelle création, un nouveau spécimen. Amen. Gloire à Dieu. Et je vais terminer avec deux écritures, 1 Pierre 2. Vous allez voir que je ne parle pas au travers de mon chapeau. Amen. 1 Pierre 2, et je vais lire le verset 8 et 9. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Il parle de quelqu'un, là. Vous autres, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. J'aime ça, moi. Je suis un peuple acquis. Parce que Jésus a acquis des droits pour moi, je suis un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Éphésiens 1. Il m'a acquis, puis il m'a donné des droits acquis. Ça m'appartient. La guérison, la paix, ça m'appartient. Ça nous appartient. Éphésiens 1, puis je vais lire du verset 11 à 14. Ça dit, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan. » Le plan, c'est à Jésus. C'est ça le plan qu'il y avait. Suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Voyez-vous, c'est glorifiant pour Dieu quand il voit que ça lui a fait plaisir. Il a dit, j'ai bien fait de le faire souffrir. Waouh, cette personne-là est guérie. On sert à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, parce qu'il y en a qui entendent la parole, mais ce n'est pas la vérité. La parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. On est un peuple acquis parce qu'il nous a acquéris des droits. Puis par notre nouvelle naissance en Jésus, en croyant que Jésus est venu nous sauver, puis en le confessant de notre bouche, de naissance, comme l'apôtre Paul, on a un droit acquis. C'est fait. C'est fait. Amen. Et ça réjouit, puis ça glorifie Dieu quand on prend part à son plan, en accord avec son plan. Son plan, c'était qu'un souffre pour qu'on ne souffre pas tous. Qu'un meure pour les péchés, pour pas qu'on meure pour nos péchés. Qu'un subisse le châtiment pour que nous, pas tous, on puisse subir le châtiment. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On a des droits acquis. C'est à nous autres à les faire valoir, nos droits. Amen. C'est acquis. On va se lever debout.